Bonsoir. Quand on prononce le nom de l'impératrice Élisabeth d'Autriche, universellement connue comme Sissi, on pense immédiatement au personnage de fiction incarné par la merveilleuse Romy Schneider. Mais ce n'est pourtant là qu'un mythe. La véritable Élisabeth d'Autriche est plus énigmatique, contrastée, tragique même, que la princesse de contes de fées immortalisée par le cinéma. Bien sûr, c'était une petite princesse bavaroise devenue impératrice d'Autriche, mais le destin de Sissi, comme notre enquête va le montrer, révèle une femme complexe, surprenante, farouchement éprise de liberté, douloureuse même. Cette femme, moderne avant l'heure, va certainement vous étonner. Pourquoi ai-je voulu commencer l'émission sur l'île grecque de Corfou ? Parce que la maison dans laquelle je me trouve, extraordinaire, révèle une facette peu connue de l'impératrice Élisabeth d'Autriche. En réalité, Élisabeth d'Autriche n'est pas une femme heureuse. Elle souffre du carcan étriqué d'une cour codifiée à l'extrême sur laquelle règne son époux, l'empereur François-Joseph. Et vous allez le voir, sa vie de femme, tour à tour passionnée, rebelle ou solitaire, est un combat permanent. Un combat perdu d'avance pour un bonheur introuvable.
Nous découvrirons comment cette jeune princesse se retrouve par un coup du sort propulsée au rang d'impératrice d'Autriche et comment elle se heurte à l'ordre rigoureux du protocole de la cour de Vienne.
Ça va commencer par une liste d'interdits. C'est un volume comme ça. Et à côté, le volume de ce qu'elle peut faire sera très mince.
Élisabeth connaît des déchirures, comme le retrait de la garde de ses enfants.
C'est grave pour elle. C'est vraiment quelque chose qu'elle vit comme un affrontement profond.
Mais également des passions, dont celle de l'équitation ou des voyages, dans lesquels elle s'enivre.
Elle aimait tellement, tellement la tempête qu'elle se faisait attacher au mât. Elle crie, elle hurle de bonheur, moi je dirais. Ce sont les orgasmes de sa vie.
Nous vivrons les drames qui ont traversé son existence tragique. De l'énigme de Meyerling, dans laquelle disparaît son fils Rodolphe, à la mort mystérieuse de son légendaire cousin Louis II de Bavière. Et nous découvrirons des lieux prestigieux, comme les palais de Schönbrunn ou de la Hofburg à Vienne.
C'est par là.
Et pour la première fois, nous pénétrerons dans des résidences secrètes où s'évade l'impératrice, comme la Villa Hermès.
On retrouve la véritable Sissi, un univers qui se révèle extrêmement triste.
Ou l'étonnant wagon-train particulier d'Élisabeth. Secret d'Histoire vous entraîne ce soir à la rencontre d'Élisabeth d'Autriche, Sissi, femme avant tout moderne et rebelle, qui fait encore aujourd'hui rêver la Vienne impériale et le cinéma.
C'est en 1861, à bord du yacht de la reine d'Angleterre Victoria, que Sissi découvre Corfou pour la première fois après un séjour à Madère. Elle est immédiatement éblouie par la beauté de cette île et par son climat qui convient parfaitement à ses problèmes pulmonaires. Elle y revient en 1885, alors qu'elle y entreprend un autre voyage à bord de son propre yacht, le Miramar, pour accompagner l'explorateur Schliemann qui vient de découvrir l'ancienne Troie et exhumer les vestiges de la cité antique. Élisabeth d'Autriche est fascinée depuis l'enfance par la mythologie grecque. Et cette passion dévorante n'a plus de limites. Elle va même jusqu'à se faire attacher, tel Ulysse, au mât de son navire pour ressentir la force du dieu des vents sur la mer Égée. Cette maison, elle l'a voulu et imaginée dans les moindres détails. Comme le montre la fresque qui nous accueille en haut des marches, c'est un hommage au plus grand des héros grecs, Achille, triomphant sur son char. Il faut dire que Sissi est passionnée dans tous les domaines, parfois jusqu'à l'excès. C'est le sang des Wittelsbach qui coule dans ses veines. Nous entrons à présent dans les appartements de l'impératrice à la Villa Aquileon de Corfou. Ces appartements ne sont absolument pas visités par le public, mais j'aimerais vous y entraîner. Allez, suivez-moi. Regardez, on se rend compte qu'il s'agit bien de la chambre de l'impératrice. Elle se situe au centre de la villa. Il faut imaginer ce qu'il y avait dans cette pièce. Il y avait ici un lit en fer assez étroit d'ailleurs, comme celui de l'empereur à la Hofburg de Vienne. De chaque côté, il y avait des chevets. C'était des meubles tout simples, en noyer, avec simplement une plaque de marbre sombre par-dessus. L'impératrice était évidemment une grande lectrice d'un genre un peu mélancolique, et sur sa table de chevet, elle avait toujours plusieurs ouvrages. D'abord, l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, qu'elle aimait depuis son enfance, et puis un poète allemand qui était plutôt interdit à la cour de Vienne, le célèbre Heinrich Heine. Mais ce refuge ne lui suffit plus. Elle dit à l'empereur, « Si l'on devait m'enfermer au paradis, très vite, il deviendrait un enfer pour moi. » Mais que cherche véritablement Sissi, enfermé à la fin de sa vie, dans ses obsessions et une incessante fuite en avant?
Vienne 1860. Élisabeth est impératrice depuis 6 ans. Elle a donné à la couronne d'Autriche et à l'empereur François-Joseph, son mari, 3 enfants, qu'on lui a retirés de manière autoritaire, 3 héritiers dont l'éducation a été confiée à des précepteurs. Dans cette prison dorée de la Hofburg, le palais impérial d'Autriche-Hongrie, où elle doit subir les contraintes d'un protocole écrasant, Élisabeth s'ennuie et sombre peu à peu dans la dépression. Sissi rêve de fuir, Sissi rêve de s'évader.
Très tôt, elle va se considérer un petit peu comme un oiseau qui va de montagne en montagne, et même peut-être une mouette qui va d'île en île parce qu'elle rêve de s'évader, elle rêve de voyager. Elle donne l'impression d'étouffer en ville et quand il y a trop de protocoles, et surtout quand on la regarde.
Alors à quoi pense-t-elle au moment où les enfants sont nés, séparés d'elle, et qu'elle a 22-23 ans, dans les années 60-61, partir, partir c'est vivre. Parce que vraiment, elle est en train de mourir. D'abord, elle tousse. Elle se met à cracher du sang. Le docteur Skoda et les autres ne savent trop que faire et conviennent qu'il faudrait un climat plus doux.
On pense à de la tuberculose, non, le diagnostic est faux. Elle est en dépression, elle n'en peut plus, elle a besoin de respirer. Au moins, à Madère et ailleurs, elle sera elle-même.
Madère, pour elle, ça ne signifie pas grand-chose. Ça signifie surtout, effectivement, un climat plus doux, mais ça signifie, mais loin, loin, le plus loin possible de Vienne.
Tu vois, là-bas, il y a l'Espagne, le Portugal et très, très loin la France.
Et encore plus loin, il y a Vienne. Et
oui.
Elle est entourée de ses amis. C'est une cour de jeunes gens, comme on pourrait dire une bande d'aujourd'hui, de jeunes de 20 ans ou 22 ans qui s'entendent très bien. Elle fait beaucoup de lectures. Ça donne à ce fameux poète qui va être la passion de sa vie, Heinrich Heine. Elle commence à lire Shakespeare, elle commence à lire Homère, elle commence à apprendre le grec, elle travaille le hongrois, beaucoup aussi. Et peu à peu, elle retrouve cette espèce de désistance poétique qui lui convient, loin de la cour, loin de l'étiquette.
Elle nage, le soleil sur la peau, elle a les bras nus, elle retrouve des toilettes beaucoup plus simples. Il y a des photos d'elle à Madère, où on la voit gratouiller une mandoline. Mais elle s'ennuie rapidement, parce que ce qui la rattrape, c'est la mélancolie. Alors, elle revient à Vienne, long voyage, mais à Vienne, maladie. Alors, elle n'est pas restée 2 jours. Rechute immédiate. À un tel point, alors là, elle repart sur une autre île. Nous revoilà encore dans les voyages. Et là commence, le corps commence, une autre névrose, l'errance.
Élisabeth est retournée à Madère. Mais très vite, elle sent que cette destination ne lui convient plus. Le voyage seul, le mouvement l'obsède. Il faut partir pour que l'esprit guérisse de ses maux. Et ce seront ainsi de nombreux voyages en Méditerranée. La Grèce qui l'attire depuis toujours, ou comme ici, la magnifique Trieste, où elle rejoint son beau-frère Maximilien et son épouse Charlotte.
Elle est très moderne par ses fuites. Je pense que si l'aviation avait existé, elle aurait eu son avion en permanence. Là, c'est un train sous pression qu'elle a en permanence. Cette fameuse voiture salon, lit, salle de bain de l'impératrice, qui sera raccrochée aux grands express internationaux.
Elle adore le train. Elle a un wagon de 9 mètres qui pèse 60 tonnes, qui a été fait d'ailleurs en Bohême, et qui est très discret extérieurement, et l'intérieur, c'est une véritable merveille.
Le 19e siècle est celui de la révolution industrielle, des chemins de fer et de leur expansion. À cette époque, les compagnies ferroviaires en Autriche sont privées. Chacune d'elles veut construire son propre wagon pour le train de l'impératrice. Elle décide finalement de s'associer pour produire un wagon spécial pour Élisabeth. C'est en fait deux wagons, un wagon salon et un wagon chambre à coucher, comportant trois pièces. La chambre, à proprement parler, un dressing et des toilettes. L'encadrement des fenêtres est en aluminium, ce qui est tout à fait nouveau pour l'époque. Et les marches pour monter à bord sont recouvertes de caoutchouc, un matériau également très moderne. Les compagnies ferroviaires ne peuvent pas apposer leur marque à l'extérieur des wagons. Élisabeth a fermement insisté pour que ceci soit élégant et le plus discret possible.
Elle va tellement vite partout que dans le Péloponnèse, en Grèce, où on est en train d'installer les premières lignes de chemin de fer, on va la surnommer l'impératrice locomotive, parce qu'on a à peine le temps de la voir. C'est tout à fait un personnage pour Paul Morand, en effet. C'est une femme pressée.
En 1875, un événement majeur se produit. L'ex-empereur Ferdinand meurt à Prague. N'ayant pas d'enfant, il fait de son neveu François-Joseph, l'époux de Sissi, son légataire universel. À l'annonce de la nouvelle, l'empereur déclare à son aide de camp « Tout d'un coup, me voilà riche. Rien ne sera trop beau pour contenter Sissi. »
François-Joseph va la doter elle-même d'un million de florins, grâce auquel elle va s'offrir des purs sangs hors de prix qu'elle n'aurait jamais pu s'offrir avant. Elle a, par passion pour la chasse à cour, décidé que la meilleure destination serait évidemment l'Angleterre. Donc, elle est reçue par Ben Middleton, qui est le plus grand cavalier d'Angleterre. Élisabeth chasse à cour comme une folle. Elle monte 8 heures par jour. Elle arrive avant tous les cavaliers qui, eux, tombent dans les bas côtés des fossés. Elle passe les clôtures. Elle ne tombe jamais. Elle est absolument déchaînée. Et Ben Middleton s'aperçoit que cette impératrice d'Autriche qu'il regardait un petit peu avec condescendance est une immense cavalière.
L'Angleterre, puis l'Irlande ou la France deviennent les terrains de chasse de prédilection de l'impératrice. En 1875, sous le prétexte de soigner les problèmes de santé de sa fille Marie-Valérie, elle décide de passer quelques semaines en Normandie, près de Fécamp, au château de Sassetot-le-Mauconduit.
Le 29 juillet 1875, un premier train arrive avec d'énormes caisses, avec des chevaux, avec une première partie du personnel. Et trois jours plus tard, Élisabeth d'Autriche est arrivée à la gare de Fécamp. Après toutes les présentations officielles auprès des élus, elle est montée directement au château. Elle est accompagnée d'une soixantaine de personnes de différents corps de métier. Donc ça peut être aussi bien un cuisinier, gouvernante, une infirmière. Son médecin, bien sûr, est venu. Sa première préoccupation était plutôt de monter à cheval. Elle est venue avec deux chevaux et a pris un professeur anglais assez connu qui se faisait appeler Allen. Tous les jours, c'était monter à cheval et c'était la descente à la mer. On est à 1,5 km de la plage des Petites Dalles, à pied. Elle n'aimait pas être dévisagée. Donc, quand elle descendait à la plage, ils avaient installé tout un système avec des draps, en fait, entre la descente, le château, jusqu'à la plage des Petites Dalles, pour pas qu'elle soit reconnue, pour qu'elle puisse prendre son bain de mer quotidien. Le professeur anglais Allen, donc le professeur de cheval, en fait, avait décidé de faire son parcours d'obstacle, mais de le faire en sens inverse, au sens habituel qu'il faisait. Et à un moment donné, le cheval, en fait, il a été pris de panique. Le cheval s'est arrêté net et Élisabeth d'Autriche a été projetée, en fait, contre cet obstacle, jusqu'à en faire une chute assez violente. Aussitôt, c'était la panique dans le village. On a appelé le docteur. Donc, le docteur Renaud est venu tout de suite à son secours et, en fait, il a aidé à faire reprendre connaissance, en fait. L'empereur a été mis au courant et tout de suite a demandé le retour d'Élisabeth d'Autriche et de sa fille Marie-Valérie.
C'est donc le retour à Vienne et aux contraintes protocolaires de la Hofburg. Mais sitôt revenue, à quoi songe Élisabeth ? Repartir.
Et les Viennois vont prendre la triste habitude, selon eux, de compter les jours où elle n'est pas là. Et la presse viennoise va établir une année que pendant 265 jours, l'impératrice n'était pas à Vienne, n'était même pas en Autriche, était de préférence en Hongrie, où elle se sent heureuse, ou alors en Égypte, ou en Irlande, ou en France, ou en Espagne, ailleurs.
Cet ailleurs, ce sera toujours plus loin. L'Espagne, l'Égypte, puis la Grèce. Fascinée par la Grèce antique, Élisabeth découvre l'île de Corfou, dont elle s'éprend avec passion. Elle y achète un terrain appartenant à un notable local et y fait construire une villa démesurée à la gloire d'Achille, son héros préféré. Jusque dans les moindres détails, elle conçoit les plans et la décoration de ce palais, l'Aquiléon, dans lequel elle aime à passer de longues semaines de villégiature. Seule, loin des contraintes du protocole viennois, elle y est enfin elle-même. À bord de son yacht Miramar qui la conduit vers cette nouvelle destination, elle exulte de bonheur.
J'adore, dit-elle, la tempête. Elle aimait tellement, tellement la tempête qu'elle se faisait attacher au mât. Si vous avez 1,70 m de cheveux qui reçoivent la mer, que vous êtes attaché à une chaise, à un mât, elle crie, elle hurle de bonheur. Moi, je dirais, ce sont les orgasmes de sa vie. Il se situe là.
C'est loin de la villa Aquiléon, à Corfou, je me trouve, que tout a commencé. Si la vie de Sissi est loin de l'image véhiculée par le cinéma, il est vrai que tout commence comme un conte de fées. Nous sommes en août 1853. L'empereur François-Joseph a 23 ans et il fête son anniversaire. Dans la berline qui les emmène de Bavière, trois femmes, la duchesse Ludovica et ses deux filles, Hélène et Élisabeth. Le destin est tout tracé. La duchesse Ludovica a tout réglé avec sa sœur, l'archiduchesse Sophie, qui elle a sacrifié son destin impérial pour que son fils puisse régner. C'est l'aînée des deux sœurs, Hélène, qui doit ce soir, au cours du bal, rencontrer son cousin, l'empereur. Il doit lui offrir une rose et demander ensuite à l'épouser. Tout est trop bien réglé pour le cœur de François-Joseph, qui se met à palpiter à la vue d'Élisabeth. Il tombe sous son charme. C'est elle qu'il veut, et non pas sa sœur aînée Hélène. Non seulement il lui offre une rose, mais le bouquet tout entier, transformant ainsi cette jeune princesse bavaroise en future impératrice d'Autriche. Comment ce coup de foudre va-t-il naître? Comment l'Europe, dominée par les Habsbourg, du nord de l'Italie jusqu'aux portes de la Russie, va-t-elle vibrer à ce coup du sort? La jeune Élisabeth n'a pas fini de surprendre.
Son originalité, Élisabeth la doit certainement à son père, le duc Max en Bavière, qui fait partie d'une branche cadette des Wittelsbach et dont elle est la fille préférée. Max, très cultivé, fervent musicien ou poète à ses heures, se tient pourtant le plus éloigné possible de la vie politique de Munich, tout en cultivant un train de vie pour le moins étonnant à l'époque.
Le duc Max est un personnage peu conventionnel, qui a fait scandale en jouant de la cithare au sommet de la Grande Pyramide en Égypte.
Je ne dis pas que Max en Bavière et son épouse s'aimaient. Non, ce n'est pas un mariage d'amour. Quand ils se sont mariés, Max a dit à Ludovica « Ne vous faites pas d'illusions, je ne vous aimerai jamais ». Mais néanmoins, le couple s'est entendu. Les enfants sont nés et la petite Élisabeth a grandi dans cette famille unie à sa manière.
Sissi, la troisième enfant de cette fratrie, née le 24 décembre 1837 à Munich. Ce sera la rose de Noël. La vie de la famille se répartit entre le palais de la Résidenz à Munich l'hiver et le charmant château de Possenhofen à quelques kilomètres de Munich, en pleine Bavière, au bord du lac de Starnberg.
Sans complexe, sans contrainte, on vit dans la nature, avec les chevaux, avec les chiens. Elle écrit des poèmes au vent, aux oiseaux. C'est une jeune fille tout à fait libre.
Elle adore les animaux, donc elle a une volière, elle a des chiens, elle a des oiseaux.
L'habitude dans cette famille était de se donner des surnoms. Hélène, ce sera Néné. Un des frères, ce sera Gackel, ce qui veut dire jeune coq.
Mais ne criez pas comme ça, voyons !
Dans ce cadre enchanteur et bucolique, l'éducation n'est sans doute pas au niveau des cours européennes, mais les précepteurs doivent composer avec le caractère indépendant et volontaire d'Élisabeth. Sissi ne tient pas en place, elle est le cauchemar de ses précepteurs.
C'est son père qui, je dirais, bouscule le protocole en restant avec les chiens à table. Il apprend à sa fille favorite à boire de la bière avec lui dans les tavernes, ce qui provoquera le scandale plus tard.
Elle a un certain don pour le dessin, mais elle étudie très peu, non, les faire des gammes, le piano, tout ça l'assomme, alors que Hélène, Nénée, c'est une jeune fille de salon plutôt. Ouais.
L'écrin des émotions d'Elisabeth, de Sissi, c'est la nature. Et c'est là-dedans qu'elle voudrait vivre.
Sissi grandit dans ce paradis de nature, le témoin des premières rencontres et des premières amourettes, premières amours déçues.
Elle est tombée amoureuse d'un certain comte Richard.
Ils se tissent entre eux une relation très idéalisée, très amoureuse de sa part en tout cas.
C'est une époque où la tuberculose est très fréquente et ce jeune homme est mort. Elle est allée à ses funérailles et elle a eu une attraction. Les enterrements au 19e siècle, il y a quand même ces cercueils doublés de Satan, ce sont ces fleurs et ces fleurs.
Et elle écrit des poèmes où elle dit « Richard, tu es parti et je serai heureuse de rejoindre où tu es ». Et déjà on sent qu'elle a une fascination assez morbide.
Elle aime la mort. Elle aime la mort, mais comme une théâtralité, le bonheur est presque un mot indécent.
Elisabeth grandit. C'est une ravissante adolescente qui a maintenant 15 ans. En même temps, s'organise de Munich à Vienne un véritable complot des mères. Il faut marier le jeune empereur d'Autriche, François-Joseph. Sa mère, l'archiduchesse Sophie, songe à une alliance politique avec la Bavière, sa patrie d'origine. Le choix d'une future impératrice se porterait-il sur l'une des filles de sa sœur Ludovica ?
La princesse que je te destine a toutes les qualités pour être impératrice. Elle est parfaite et je suis certaine que tu m'approuveras. Elle est jeune, ravissante, catholique. Que peut-on demander de plus ?
De la connaître ?
Tu la connais déjà. Tu l'as vue à Innsbruck. C'est ta cousine Hélène, la fille de ma sœur Ludovica.
Au dernier moment, Sissi, qui ne devait pas faire partie du voyage, est embarquée dans la fournée familiale, dans la grosse berline qui va prendre la route.
Et donc, voilà la mère et les deux filles qui partent de Munich à Bad Ischl.
Ludovica a loué pratiquement toutes les chambres de l'hôtel Austria. Sa suite, d'ailleurs, arrive avec du retard, ce qui la met dans l'état épouvantable.
Les mâles dérobent en retard, avec toutes les trois une migraine, le teint jaune, pas très en forme, surtout Hélène. Et tout le monde est occupé, il est déjà 5 heures d'après-midi, à préparer Hélène. Hélène, dans une robe blanche, du laurier vert, ça se faisait beaucoup, on est en plein romantisme.
Le destin semble tout tracé pour Hélène. Et à la Kaiser Villa de Bad Ischl, les festivités s'organisent pour célébrer les fiançailles de François-Joseph avec la future fiancée.
François-Joseph est un beau garçon, et un des hommes les plus puissants du monde, il faut bien le dire. On se croise, on prend le thé, etc. C'est l'archiduchesse Sophie la première qui se rend compte de la beauté incroyable de la petite Élisabeth. Mais ce qu'a vu l'archiduchesse, le fils ne saurait que le voir.
Comme Sissi a changé. Je crois que je ne l'aurais jamais reconnue. À Innsbruck, elle n'était encore qu'une enfant. Tandis qu'aujourd'hui, c'est une ravissante jeune fille. C'est incroyable. Pardon, Hélène, je n'aurais pas dû dire cela.
Et pourquoi n'auriez-vous pas dû le dire ?
Il n'est pas très galant pour une aussi charmante voisine de lui vanter les charmes d'une autre jeune fille.
C'est ma sœur, c'est un peu différent. Je sais, elle est très jolie. Je dois même dire que chaque jour, elle l'est davantage.
Et il a eu ce qu'on appelle le coup de foudre.
François-Joseph va être fasciné par cette cousine qu'il n'a pas vue depuis des années, mais qui a tellement changé.
Il ne voit plus du tout Hélène. Hélène bascule dans l'ombre.
Et puis est venu le moment de cette danse traditionnelle qu'on appelait la danse du cotillon. Et il est venu devant Sissi, qui l'a invité à danser.
Ma chère cousine, c'est avec une grande joie que je vous offre ce soir vos fleurs préférées.
Mais qu'est-ce que cela veut dire ?
Il ne veut pas épouser Hélène, il veut épouser Sissi.
Et alors c'est la première fois que François-Joseph va désobéir à sa mère, qui fait une scène épouvantable en disant « Mais tu dois épouser Hélène, c'est elle qui a la stature, la dimension, la pointure, nous dirions aujourd'hui, d'une future impératrice et non pas sa sœur qui se croit dans une taverne de Munich. » Non, il ne cédera pas, il épousera Sissi. Et je crois pouvoir dire qu'il a été amoureux d'elle tout de suite et toute sa vie.
et les fiançailles vont tellement vite qu'elles deviennent officielles 2 jours après. Il y a une messe à la petite église de Badishaun, mais Elisabeth, en sortant de la messe, entre déjà dans quelque chose qui va la terrifier, lui faire horreur toute sa vie, le protocole.
Elisabeth ne sait pas ce qui lui arrive et elle n'a même pas le temps de dire oui, ni non d'ailleurs, mais elle aura cette phrase très jolie. En regardant son cousin, qu'elle trouve plein de charme et séduisant, elle est un peu impressionnée. Si seulement il n'était pas empereur.
Une année de fiançailles, c'est une année de préparation au mariage. Tout un trousseau est constitué pour la future impératrice. Le 17 novembre, jour de la Sainte Élisabeth, arrive de Vienne un courrier avec un cadeau somptueux de François-Joseph à sa fiancée. Une broche ayant la forme d'un bouquet de roses en diamant qui coûte 80 000 florins à la cassette personnelle de l'empereur.
Ici, on peut bien voir un tableau fait de porcelaine qui fait voir François-Joseph et Sissi très jeunes. C'était pour le public, pour faire la connaissance de cette impératrice future. Et aussi le trousseau, où on peut lire que Sissi, elle n'aimait pas les robes en plusieurs couleurs. On trouve surtout les robes blancs, bleus, grises. Quelquefois, c'est la combinaison bleu-blanc, mais jamais rouge, par exemple, ou jaune.
C'est à bord d'un vapeur qui relie Munich à Vienne que la jeune Élisabeth est conduite vers son futur époux et est présentée au peuple autrichien, qui l'accueille dans la liesse générale.
Toute la navigation est interdite sur le fleuve, seule. Le navire qui transporte la future impératrice peut avancer et François-Joseph, qui est amoureux comme un sous-lieutenant, selon son expression, s'est fait précéder de dizaines de milliers de roses des serres de Schönbrunn.
Elle est éprouvée par les 3 jours de voyage, donc elle est quand même dans un moment de grande angoisse et de stress. Et bien que François-Joseph essaye de la rassurer autant que possible, elle est déjà dans une position d'inquiétude. Et l'archiduchesse Sophie ne s'est pas fait faux déjà de lui faire un reproche très vexant, puisqu'elle a déclaré, et tout le monde l'a su, Élisabeth est ravissante, mais elle a les dents jaunes.
Et on la guide à Schönbrunn. Et à Schönbrunn, la fatigue, c'est il faut à peu près 2-3 heures pour changer de toilette. Elle ne fait que... On la change comme un objet. On la part autrement, d'une robe extrêmement complexe, lourde de guipures, de dentelles, avec des vraies roses blanches, etc. Parce qu'il s'agit de lui faire traverser aussi toute la ville.
Donc, ce que vous voyez ici, c'est la traîne de la robe de mariée de l'impératrice Élisabeth, donc une pièce très, très précieuse qui appartenait à la famille jusqu'aux années 70 du XXe siècle. C'était dans cette voiture que vous voyez ici que les Viennoises et Viennois ont vu l'impératrice pour la première fois. Elle ne se trouvait pas tout à fait à son aise dans ce moment-là. Donc, elle était dans cette voiture avec sa mère. Et elle portait une belle couronne de diamants que l'empereur lui avait donnée comme cadeau le jour précédent. Et quand elle est arrivée au palais impérial avec toute la famille impériale qui attendait la future impératrice, elle descendait de cette carrosse.
Et elle a tellement peur, elle est tellement angoissée qu'elle va heurter, le diadème va heurter la porte du carrosse. Oh, c'est un mauvais signe. Et alors le mariage lui-même, bon, on lui a dit, il y a une sorte de répétition, il faut quand même traverser tout cet espace de velours rouge.
Et c'est le lundi 24 avril 1854 que Sissi unit son destin à celui de l'Empire autrichien, en l'église des Augustins, la paroisse de la cour de Vienne.
Alors on n'a jamais vu une mariée pleurer autant. Mais l'archiduchesse dit toujours « Sissi est ravissante quand elle pleure ». Eh bien, elle sera ravissante longtemps, croyez-moi.
Bien loin des fastes déployés pour cette cérémonie et de l'honneur qui est rendu à la nouvelle impératrice, Sissi se sent déjà prisonnière à Vienne, comme en témoignent les vers qu'elle écrit 3 jours à peine après son mariage.
Ah, puis-je n'avoir jamais quitté le sentier de la liberté ? Je me suis réveillée en prison, les mains retenues par les chaînes, le désir toujours plus ardent. Liberté, liberté, tu m'as délaissée. Je me suis réveillée d'une ivresse qui tenait mon esprit captif. En vain, je maudis cet échange et le jour liberté où je t'ai perdu.
Lorsque la jeune Sissi, fraîchement arrivée de sa Bavière natale, découvre Vienne et la vie de cour, c'est un choc pour elle. Nous sommes ici à la Hofburg, c'est-à-dire le palais impérial où Sissi passe le plus clair de son temps lorsqu'elle se trouve à Vienne, la capitale de l'Empire. On imagine le traumatisme qu'est pour cette jeune femme, vive, enjouée, naturelle, de se trouver dans ce palais ancestral au décor chargé. Imaginez, c'est ici qu'elle prend son petit déjeuner, dans ce décor fastueux et pompeux. En plus, elle est traumatisée parce qu'on la prive de la garde de ses enfants qui sont confiés à d'étranges précepteurs pour leur éducation. Prisonnière de ce carcan, l'impératrice va d'abord tenter de se rebeller, de révolutionner le protocole rigide hérité de l'étiquette espagnole, celle de Charles Quint. La beauté est devenue une arme pour l'impératrice Élisabeth en même temps que son allié. Je me trouve actuellement dans le cabinet de toilette de l'impératrice Sissi. C'est là que l'on prend soin de son extraordinaire chevelure, que l'on met 2 heures à peigner, brosser, natter et façonner. Et pendant ces longues heures, passées à embellir un corps déjà superbe, l'impératrice reçoit ses professeurs de grec et de hongrois. C'est ici également qu'elle fait installer ses appareils de gymnastique. Imaginez un peu la stupeur de la cour en voyant ces anneaux, cet espalier ou cette barre, proprement révolutionnaire pour l'époque. Il faut dire que la vie au quotidien d'Élisabeth ne lui permet aucune intimité. Ici, pas de chambre à coucher, mais un salon où le jour, elle reçoit les audiences et que l'on transforme la nuit en chambre avec un simple lit de fer qui correspond d'ailleurs beaucoup mieux à son corps façonné par le sport et le régime drastique qu'elle s'impose. Elle, si dénigrée par une cour qui la dit sotte et sans conversation, comprend qu'elle conservera le cœur de l'empereur et l'admiration des cours royales européennes par l'image qu'elle renverra d'elle-même.
Le pari délicat de se faire accepter par la cour viennoise et par une belle-mère qu'il estime très peu est loin d'être gagné pour Élisabeth. Après l'éprouvante cérémonie du mariage, Sissi subit une nouvelle fois la terrible loi du protocole, celle de l'intimité toute relative de la cour viennoise qui la met face une nouvelle fois à ses responsabilités d'impératrice.
On prépare la mariée, mais c'est quand même les mères qui mettent la jeune impératrice d'Autriche au lit et qui vont dire à l'empereur « la jeune mariée est prête ». L'empereur entre dans cette chambre, c'est un homme et une femme dans un lit.
Toutes les indiscrétions les plus scabreuses vont être commises pour savoir quand ça s'est passé et si ça s'est passé.
Élisabeth est effrayée par ces indiscrétions protocolaires, incarnées par la tradition séculaire du Morgengabe, un coffret offert à la jeune mariée en reconnaissance du don de sa virginité à l'Empire.
C'est en fait le prix de sa virginité. Il y a dedans donc de l'or, des rouleaux d'or.
Pense à Joseph qui avait l'habitude des comtesses hygiéniques, comme on l'a dit, que lui procurait sa mère pour qu'il ne reste pas puceau, dirons-nous.
A-t-il eu toute la patience et le savoir-faire qu'il fallait avec une jeune fille dans une autre époque? Nous ne pouvons pas le dire, mais on sait qu'il a été très, très amoureux.
François-Joseph l'aime assez pour patienter 3 nuits. Mais c'est un homme de devoir, un empereur. Et la 3e nuit, c'est un loup dans ce lit. Un loup très aimant, mais un loup et une victime.
Sissi se retire dans une pudeur compréhensible. Mais elle est appelée à paraître de manière très officielle au petit déjeuner, le lendemain matin, en famille.
Quand Élisabeth dira avec le recul du temps à l'une de ses dames d'honneur « Je garde le souvenir d'un cauchemar de ces moments de mon mariage », elle ne fait pas forcément une allusion au rapport physique. Non. Elle fait une allusion au fait que le matin, au petit déjeuner qui est obligatoirement pris en famille, sa tante et belle-mère regardent si elle a des cernes, si elle a le regard bordé de plaisir et de reconnaissance, comme on disait autrefois. Et ça, ça lui est insupportable.
Protocole oblige, à la Hofburg, tout est codifié à l'extrême. Du placement à la disposition des moindres éléments de la table impériale. Olivia Lichtscheidel, conservatrice à la Hofburg, nous en explique les codes.
La table dans la salle à manger est préparée comme à l'époque. Ça veut dire que la nappe doit être jusqu'à par terre. Ce n'était pas permis de faire voir les pieds de la table. Et aussi la fourchette, les couteaux, c'est tourné parce que sur l'autre côté, il y a toujours l'aigle avec les deux têtes. C'est le symbole de l'empereur et ça veut dire qu'il a le pouvoir de la religion et aussi de la politique.
Sur cette table de la Hofburg, dressée telle qu'elle l'était du temps de François-Joseph, les serviettes, lorsqu'elles sont savamment pliées en forme de lys, indiquent que l'empereur va paraître à table. Ce secret de pliage très habilement gardé ne figure dans aucun registre. Seules deux femmes à Vienne se le transmettent encore aujourd'hui, d'une génération à l'autre. Les devoirs et les obligations de Sissi sont incarnés d'une main de fer par sa belle-mère, l'archiduchesse Sophie, qui ne lui passe rien.
Ça va commencer par une liste d'interdits que va lui présenter la grande maîtresse de la cour, la comtesse Esterházy Liechtenstein. C'est un volume comme ça. Et à côté, le volume de ce qu'elle peut faire sera très mince. Un petit livret.
Son Altesse impériale, l'archiduchesse Sophie, me charge de remettre à votre majesté, à toutes fins utiles, un exemplaire du cérémonial de la cour d'Autriche. Son Altesse suggère que votre majesté la prenne par cœur.
Pour des histoires de protocole, de placement à table, de régime alimentaire, d'usage, de mauvaises habitudes ou de bonnes manières, ce sont des incidents en permanence. Et François-Joseph lui-même dira qu'il est pénible d'avoir à trancher entre sa mère et sa femme. Le premier enfant, et on l'oublie souvent, est une fille qui, évidemment, c'est la grand-mère qui l'a décidé, portera son même prénom, Sophie. On n'a pas demandé à Sissi, à l'impératrice, son avis. Première vexation.
Franz, qu'est-ce que ça veut dire ? Où a-t-on mis notre enfant ?
Écoute, Sissi, je ne savais pas que ma mère avait déjà donné cet ordre. Oui, je voulais t'en parler. Ma mère a décidé d'élever elle-même notre petite fille.
Élisabeth se voit donc dépossédée de ce premier enfant. Et c'est grave pour elle. C'est vraiment quelque chose qu'elle vit comme un affrontement profond avec sa belle-mère.
Elle se met à détester Vienne. Alors elle accouche de Sophie. Et ensuite, il y a une deuxième grossesse qui sera Gisèle. Encore une fille, donc toujours pas de garçon.
Les relations difficiles entre la couronne autrichienne et la province de Hongrie, qui lui est à l'époque asservie, sont à l'origine d'une visite officielle que doit effectuer l'empereur à Budapest. Il faut y présenter la nouvelle impératrice et celle-ci souhaite paraître aux côtés de ses enfants.
La belle-mère et tante hurlent. Comment ? Mais c'est de la folie. Dans les chaleurs de la Hongrie, de la Pushta, où c'est un enfer insupportable, c'est de la folie.
Arrive le malheur d'une gastro très 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 grave, emporte Sophie qui a 2 ans et l'enfant est morte dans ses bras. Et l'archiduchesse la fait culpabiliser en disant « C'est de votre faute, vous avez emmené mes filles, moi je savais élever vos enfants, vous êtes incapable en fait, c'est ça. » Là, on descend d'un cran encore plus loin dans la mélancolie. Elle est dans la déchirure.
La belle-mère et tante triomphent. Je l'avais bien dit, c'était de la folie. Donc, Élisabeth est punie dans ce qu'il y a de plus épouvantable pour une mère, la mort d'un petit enfant parce qu'elle n'a pas écouté les adultes.
Et contre toute attente, le peuple hongrois compatit au désespoir de ce jeune couple, fut-il impérial, qui vient de perdre un enfant. C'est un lien de douleur et d'amour qui unira Élisabeth et la Hongrie à jamais. Malgré cette détresse, Élisabeth met au monde un nouvel enfant. Le 21 août 1858, naît l'archiduc Rodolphe, l'héritier tant attendu pour l'Empire. Mais une fois de plus, la garde de l'enfant est retirée à Élisabeth. Elle ne le verra pas grandir et sombre peu à peu dans un sentiment d'abandon proche de la dépression.
Alors, Élisabeth se met à fumer en toute occasion, en public, en privé, dans les appartements. Et évidemment, c'est très mal vu. Élisabeth se fait accompagner de ses grands chiens qui ne la quittent pas dans les appartements, aux grandes dames de ses dames d'honneur allemandes et autrichiennes qui sont absolument outrées de voir ses chiens aller dans les salles à manger, dans les cabinets privés. Elle ne s'est jamais remise de la mort de Sophie, donc elle a peu à peu une espèce de déchéance physique qui s'installe en elle, très curieuse car c'est un personnage d'une énergie et d'une santé extraordinaire. Et tout d'un coup, on voit Élisabeth se défaire, on parle de phtisie, on dit qu'elle a la tuberculose.
Et puisqu'on lui a volé ses enfants, on a tari la source maternelle, eh bien, faisons comme si les enfants étaient morts, parce que secrètement, elle les a enterrés, ils sont morts. Partir, parce que vraiment, partir, c'est vivre.
Sissi quitte sa famille et fuit cette cour de Vienne qui lui fait horreur. Ce sera loin, à Madère et son soleil qui guérit les maux du corps et ceux de l'âme, qu'elle reprend la force de vivre. Lorsqu'Élisabeth est contrainte de revenir en Autriche, elle est transformée, sublimée.
Elle a compris que s'occuper de son corps et de sa beauté, c'était une façon de tenir l'empereur, l'empire et les autres à la fois en grande distance et en fait en sublimation permanente.
Les exercices physiques, le sport font désormais partie intégrante d'elle-même. Dans tous les palais qu'elle occupe, la Hofburg, Schönbrunn et plus tard sa villa de Corfou, ou encore à la villa Hermès, elle fait installer des salles de gymnastique et des appareils peu communs pour l'époque, comme ce pèse-personne, témoin d'un régime très strict.
Alors, à ce propos, l'anorexie dont on l'accuse n'est pas tout à fait vraie. Elle mange tout le temps, mais en petite quantité. Elle a le spectacle souvent de dames plutôt confortables de la cour. Et elle va sérieusement corriger les canons de la beauté puisque son tour de taille ne dépassera pas 55 centimètres.
Élisabeth est très maligne et elle sait que ce qui est important, par exemple, dans la viande, ce n'est pas la fibre, c'est le sang. Donc, elle se fait servir du jus de bœuf à moitié cru. Elle sait que la vitamine C défend l'organisme contre les microbes, donc elle boit fort ce jus d'orange, de pamplemousse, de toutes sortes de fruits pressés. On s'aperçoit que son régime n'est pas si idiot.
Et lorsque l'impératrice a envie d'un sorbet à la violette, son préféré, elle s'arrête sans escorte dans une des nombreuses échoppes de Vienne.
Sa Majesté se promène à pied dans les rues.
Et elle a même fait des achats dans les magasins.
D'où tenez-vous cela ?
De son cocher. Il a raconté que la foule qui avait reconnu sa majesté s'est mise à l'entourer, à l'acclamer et avait même déchiré sa robe dans son enthousiasme.
C'est ridicule.
Les fournisseurs de la cour impériale perpétuent depuis plusieurs siècles la tradition des spécialités et des sucreries viennoises. Le pâtissier Demmel propose encore aujourd'hui les célèbres violettes sucrées qui régalaient l'impératrice. Élisabeth venait elle-même acheter ses friandises avec ses dames de compagnie. Splendide et rayonnante en beauté, c'est à cette époque que François-Xavier Winterhalter, célèbre peintre des cours royales d'Europe, exécute les plus somptueux portraits de l'impératrice.
Il n'y a pas un seul ambassadeur en visite à Vienne qui ne donne un compte-rendu de la splendeur et de la beauté d'Élisabeth. C'est universel.
Et d'ailleurs, le chat de Perse, en 1873, ne s'y trompera pas. Il vient de voir la reine Victoria, qui a une silhouette plutôt confortable. Et lorsqu'il voit Élisabeth, évidemment, dont il a beaucoup entendu parler, il va tourner autour d'elle comme si c'était un cheval, un pur sang, et dire en français, parce que pour le chat de Perse, c'est le français qui convient pour parler aux jolies femmes, « Mon Dieu, qu'elle est belle !»
Et dans les bals de la cour, à Schönbrunn comme à la Hofburg, Sissi irradie de toute sa splendeur lorsqu'elle valse au bras de l'empereur. Vienne célèbre encore aujourd'hui, même auprès des jeunes générations, la tradition des bals et de la valse viennoise. Le professeur Thomas Schaeffer-Hellmayr nous invite à suivre une répétition de l'ouverture du bal annuel du lycée français à Vienne.
La valse viennoise se développait dans le XIIe siècle apparemment, mais était interdit à danser, surtout à la cour, mais aussi autre part, parce que l'Église le regardait comme une danse de diable, parce qu'on a l'impression de voler si on danse la valse très bien. Et en plus, les personnes étaient très proches, ce qui était aussi tout à fait nouveau et pas accepté par tout le monde. Mais en 1770, Joseph II, le fils de Marie-Thérèse, a ouvert la Hofburg au public pour les bals. Aujourd'hui, c'est certainement à Vienne, c'est la danse la plus aimée, la plus adorée ici. C'est notre danse. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne connais aucun autre pays ou une autre ville où il y a plusieurs centaines de bals par an.
Elisabeth a compris depuis longtemps que son époux règne tant bien que mal sur un empire disparate où tant de nationalités au mieux s'ignorent quand elles ne s'affrontent pas. Passionnée par la Hongrie qu'elle ne connaît pas vraiment, mais qui est synonyme d'indépendance et de liberté, elle souffle à l'empereur une idée décisive, leur couronnement comme roi et reine de Hongrie, qui institue de fait la double monarchie austro-hongroise. Nous sommes le samedi 8 juin 1867 à Budapest. Ce ne sont que des hurrahs et des bravos qui émanent d'une population qui accueille François-Joseph et Elisabeth, rebaptisés pour l'occasion Ferenc-Joseph et Erzsébet, et à qui l'on manifeste attachement et reconnaissance. Une grande journée de festivités commence. Un long cortège se forme avec à sa tête François-Joseph à cheval en grand uniforme de maréchal hongrois. Il caracole en tête sur ce cheval, sabre au clair, et regardez ce cheval. Son tapis de selle et les étriers qui portent les armoiries de la Hongrie et la couronne de Saint-Étienne. François-Joseph accompagne donc ce carrosse baroque et ses 8 chevaux qui le tirent et qui conduit Élisabeth jusqu'à l'autel de l'église Saint-Mathias. Je ne résiste pas évidemment au plaisir de vous montrer ce carrosse de l'intérieur, mais je dois munir au préalable d'un gant blanc. Regardez. Ce couronnement est sans conteste la plus grande réussite politique d'Élisabeth, elle qui a compris que l'enjeu de l'Empire se trouve en Europe centrale, dans la reconnaissance des peuples et des nationalités. Et les Hongrois lui rendront pour toujours cet amour sans faille. Pour eux, Sissi est à jamais reine de Hongrie.
Par tradition, le roi devait monter à cheval et la reine de Hongrie l'accompagnait dans son carrosse. Elle portait une magnifique robe de vorte exécutée à Paris, que nous connaissons par des portraits qui la montrent comme vraiment magnifique et très très belle reine de Hongrie.
L'une des phases du couronnement qui est symboliquement tout à fait merveilleux, où le roi couronné à cheval monte, gravit la colline du couronnement, qui est un petit monticule.
Je jure devant Dieu, le Seigneur Tout-Puissant, de protéger la Hongrie contre tous ses ennemis.
L'épée levée, indiquant les 4 points cardinaux, les 4 directions, jure de défendre la Hongrie contre ses ennemis extérieurs, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. C'est un des très beaux moments de ce couronnement hongrois.
Cet amour pour la Hongrie, Élisabeth le doit très tôt à son éducation et à l'un de ses précepteurs, le comte Maistla. Le jeune professeur va se faire un plaisir d'apprendre la langue hongroise à la jeune fiancée qui va bientôt monter sur le trône d'Autriche.
Il lui montre quelques gravures, il lui parle de la Hongrie et elle a une fascination et un amour pour la Hongrie où elle n'est jamais allée. Et déjà, avec une certaine aisance, elle a une première approche de cette langue et ça, c'est un signe déjà qui se met en place.
Lors de ses premiers pas d'impératrice à Vienne, Élisabeth s'entoure progressivement de dames de compagnie hongroises, ses chères hongroises comme elle les appelle, dont la comtesse Ida Ferenczi, l'une de ses proches qui va jouer un rôle déterminant dans la grande œuvre politique d'Élisabeth. Emmanuel de Varesquiel, historien spécialiste du 19e siècle, nous explique la formation de l'Empire austro-hongrois.
Alors, cet empire d'Autriche qui devient l'Empire d'Autriche-Hongrie en 1867 est un ensemble extrêmement composite de nationalités différentes. Vous avez évidemment deux peuples dominants qui sont dans la partie autrichienne de l'Empire, les Allemands, et autour de Budapest, les Hongrois qui sont ici. C'est un empire qui est à peu près deux fois grand comme la France, environ 650 000 km², et qui comprend environ 55 millions d'habitants. Un empire qui s'organise par ajouts successifs de nationalités différentes auxquelles on conserve les particularismes culturels et surtout les langues. Il y a un très grand libéralisme du point de vue de l'éducation, de la politique d'enseignement et de la conservation des langues locales, avec évidemment des hauts et des bas, pendant tout le 19e siècle, de la part des empereurs autrichiens.
Ces particularismes régionaux dans un empire composite, Élisabeth les avait bien compris lors du tout premier voyage officiel du couple impérial dans les provinces d'Italie en 1856. Sissi vient tout juste d'être couronnée impératrice.
La première manifestation politique tangible de l'influence d'Élisabeth dans la politique impériale, c'est le désastreux voyage en Italie du Nord, dans le Milanais et en Vénétie, qui sont des provinces occupées par l'Autriche depuis le Congrès de Vienne. Or, ils vont subir une humiliation absolument théâtrale, au sens propre, puisque en arrivant à Milan, où on leur avait dit que toute la bonne société avait loué ses places et ses loges pour les accueillir à l'opéra, en fait, la bonne société se fait représenter par ses domestiques, par ses maîtres d'hôtel, par ses laquais, par ses palefreniers, par ses femmes de chambre.
J'ai envoyé la femme de mon concierge, elle est enchantée.
Moi, j'ai envoyé la cuisinière.
Et moi, mon cocher.
C'est très drôle.
Faut imaginer ce que c'est. Jusqu'au bout, ils sont restés pour cette représentation, mais Élisabeth dit « ça n'est pas possible de continuer, nous sommes détestés ». Alors, François-Joseph va l'écouter et va assouplir le régime.
Ses premiers pas vers une autonomie très relative des provinces italiennes du joug de l'Empire autrichien sont un sacrifice pour l'esprit conservateur et la rigueur de François-Joseph. Mais ils sont non seulement une marque d'amour, mais également un témoignage de confiance auprès d'Élisabeth. Ces récents changements de politique en Italie marquent le premier succès de Sissi en tant qu'impératrice.
Il est très intéressant de voir cette prescience qu'elle a d'une Europe en formation, d'une nouvelle Europe que Sissi accompagne, et notamment avec la formation d'une nouvelle Europe centrale.
Les tensions en Hongrie, province alors associée à la couronne d'Autriche, avaient mené en 1848 à une révolution pour obtenir l'autonomie. Une révolution réprimée dans le sang par Vienne.
Le soulèvement hongrois est réprimé de façon sanglante. Il y a des fusillades, il y a des pendaisons, il y a des exils.
Suite à ces révoltes et malgré un certain assouplissement de la politique autrichienne, comme la liberté de la presse ou l'octroi d'une constitution, le malaise entre Vienne et Budapest demeure.
Or, il y avait à ce moment-là une nouvelle puissance germanique qui devenait très importante. La Prusse va se développer militairement, économiquement, politiquement, et être le fer de lance de l'unité allemande, comme l'on sait. Alors François-Joseph va s'orienter vers le centre est européen et évidemment, ça passe par la route de la Hongrie.
Seul un lien fort et indéfectible entre l'Autriche et la Hongrie leur permettrait de faire front contre la Prusse qui menace l'empire de François-Joseph.
Élisabeth comprend très bien qu'elle peut jouer un rôle de revanche politique, d'existence politique, puisque on lui dénie toute influence à la cour de Vienne, où on la traite très mal. Elle traite mal les Viennois, elle fait scandale en ne venant pas à un gala à l'Opéra de Vienne, ou si elle vient, c'est en étant habillée en hongroise, ce qui scandalise tout le monde, donc les relations sont très tendues.
Mène une campagne absolument incessante pour que François-Joseph accepte de renoncer à cet écrasement de la révolution hongroise. Alors, l'un des grands personnages de la révolution hongroise qui a été exilé est le fameux comte Julien Andrassy, qui est un homme d'une séduction absolue, qui est appelé le beau pendu, puisqu'il n'a été pendu qu'en effigie, heureusement pour lui, mais il a quand même été condamné à la pendaison. Et lorsque son exil est enfin supprimé, il revient à Budapest, et c'est là où, à travers Ida Ferenczi, qui est hongroise et qui est bien sûr attentive au jour le jour à tous les événements de Hongrie, il est en lien avec le désir d'Élisabeth de libérer le peuple hongrois.
Majesté, ma première visite après mon retour d'exil est pour votre majesté, afin qu'elle apprenne aujourd'hui combien toute la Hongrie honore et remercie de tout cœur votre majesté.
Relevez-vous, comte Andrassy. C'est à l'empereur que vous devez l'amnistie. C'est lui qu'il faut remercier.
Et c'est elle qui, officieusement, mais tout le monde le sait, va mettre un lien fou pour que la Hongrie soit l'égale de l'Autriche et que naisse, le 8 juin 1867, ce compromis unique dans l'histoire qui s'appellera la double monarchie, la monarchie austro-hongroise.
Je demeurerai toujours l'ami de votre pays et l'empereur saura par de justes mesures vous faire oublier les mauvais jours du passé.
Ils vont devenir, François-Joseph et elle, Ferenc Joseph et Erzsébet, roi et reine apostolique de Hongrie, et ce sera une fête extraordinaire ce 8 juin 1867 dans l'église Saint-Mathias sur la colline de Buda. Au grand orgue, l'organiste est un homme avec un long nez, des cheveux blancs, presque un prêtre, c'est Franz Liszt, et qui attendait depuis des années, voire des dizaines d'années, de pouvoir jouer sa messe du couronnement. Il la joue en l'honneur de Sissi, devenue Erzsébet.
Elle a réussi cette chose magnifique de donner à la Hongrie un roi et surtout une reine, Erzsébet, Eljen Erzsébet. Vive Élisabeth, et encore aujourd'hui, ils adorent leur Élisabeth.
Et lorsque Erzsébet accouchera au château royal de Hofen, le palais royal de Budapest, d'une fille, Marie-Valérie, tout le monde racontera que cet enfant est celui d'Andrassy. Il faudra attendre quelques années pour s'apercevoir que la ressemblance avec François-Joseph est telle que c'était une calomnie, mais ça fait partie évidemment de la légende que Erzsébet et Élisabeth fabriquaient plus ou moins consciemment, à force de fuir, de ne pas être avec son mari. On soupçonnait qu'elle eut beaucoup d'amants, ce qui n'a jamais d'ailleurs été prouvé. Andrassy est un homme qu'elle va soutenir et qui fera très bien son travail de chef du gouvernement hongrois.
Or, Andrassy, qui sait qu'Élisabeth rêve de Gödöllő, puisqu'elle adore cette Hongrie dans laquelle elle veut résider, lui fait offrir par le gouvernement hongrois la propriété de Gödöllő.
Véritable joyau d'architecture baroque, le château de Gödöllő, construit par la grande Marie-Thérèse, renaît de ses cendres. Il est restauré à grands frais par Élisabeth, qui voit dans ce château un prolongement à son action politique et à ce long combat personnel. C'est à Gödöllő qu'est élaboré avec les dignitaires hongrois, puis ratifié en 1867, le compromis qui lie Vienne à Budapest. Très vite, la résidence devient le palais d'été de Sissi, où elle passe la plupart de son temps, jusqu'à y séjourner 6 mois de l'année.
Nous sommes dans les salons de réception d'Elisabeth. Elle organise ici les réunions entre personnalités politiques qui ont abouti, entre autres, au compromis austro-hongrois de 1867. À Gödöllő, la nouvelle reine s'entoure des plus grands intellectuels, philosophes ou historiens de son époque. Ici se trouve le bureau d'Elisabeth. Sur les murs et les différents meubles, on reconnaît les portraits de ses enfants, Gisèle, l'archiduc Rodolphe, ainsi que Marie-Valérie. Comme on le sait, la reine est une écuyère tout à fait remarquable. C'est pourquoi on trouve dans ses pièces plusieurs portraits la représentant à cheval.
Ses courses effrénées à cheval, Sissi trouve la liberté de les effectuer enfin sans contrainte dans sa propriété de Gödöllő. Et ce sera souvent au détriment de son corps martyrisé par tant d'exercices physiques qui lui valent des crises de sciatique permanentes et douloureuses. Ces douleurs fréquentes sont soulagées de façon hasardeuse par les médecins de l'époque, comme en témoigne cette étonnante seringue à cocaïne conservée au musée Sissi de Vienne.
Elisabeth, non seulement est une cavalière émérite, une cavalière hors du commun, mais prendra aussi des cours au cirque Runz, qui était le cirque de Vienne. Et Elisabeth saura faire des figures de danse à des merveilles de chevaux. Elle devient aussi une écuyère.
Et comment ne pas évoquer l'art équestre, sublimé par la Vienne impériale? Aujourd'hui, l'école espagnole d'équitation perpétue encore face au public la tradition et les étonnantes prouesses équestres qu'effectuait l'impératrice elle-même en son temps.
Nous sommes à présent au château de Schönbrunn, près de Vienne, le palais d'été des empereurs d'Autriche. Il y a 3 siècles, d'immenses forêts s'étendaient sur l'emplacement actuel de Schönbrunn, offrant un terrain de chasse particulièrement privilégié aux Habsbourg. De pavillon de chasse, le petit château construit à l'époque devient cette majestueuse réplique de Versailles sous l'égide de Marie-Thérèse qui, pour l'anecdote, construit un 2e étage au palais. L'impératrice Marie-Thérèse a 16 enfants et, protocole espagnol oblige, chaque membre de la famille impériale a droit à 5 pièces qui lui sont dévolues personnellement. Impossible donc de loger tout le monde au même étage. Nous sommes ici dans le bureau de l'empereur et le souvenir de François-Joseph est encore bien présent. Regardez, il y a même ici un biscuit qui est signé de Klotz et qui représente l'impératrice Elisabeth d'Autriche. C'était un cadeau que l'empereur faisait souvent aux ambassadeurs étrangers. Pourquoi ? Parce que ce bureau était le bureau d'audience de François-Joseph. On l'appelait le souverain bureaucrate parce qu'il se levait à 4 heures du matin pour travailler et c'est vrai que le poids de ses responsabilités était écrasant. L'impératrice venait se pencher régulièrement sur son épaule pour le soutenir dans sa tâche. D'ailleurs, on le voit beaucoup mieux dans son bureau privé, où là, il y a des photos de son épouse et de toute la famille impériale, de façon même un petit peu obsédante. Nous sommes ici dans la chambre commune de l'empereur et de l'impératrice. Regardez, ce sont 2 lits jumeaux qui ont été réunis. En réalité, l'impératrice Elisabeth ne supporte pas la pesanteur, la rigidité du protocole, ce qu'on appelait l'étiquette espagnole, qui règne ici au château de Schönbrunn, comme du reste au palais impérial de Vienne, la Hofburg. Alors, dès qu'elle peut, eh bien, elle s'échappe de ce palais d'une manière parfois tout à fait étonnante, comme je vais vous le montrer à présent. Allez, suivez-moi. C'est par là. L'une des particularités du château de Schönbrunn, c'est cet étonnant cabinet dit de l'escalier. Dans cette pièce qui n'a pas été conçue comme un bureau à l'origine, l'impératrice se consacre à sa correspondance et à ses écrits poétiques. Quel signe la mouette, c'est une référence à ses voyages et vous la voyez ici représentée en pied à Corfou. Elle signe également la colombe ou encore Titania, la reine des fées d'après le songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Dans ce cabinet, où l'impératrice s'envole par la pensée, il y avait autrefois un escalier dont vous voyez encore ici la trace. Cet escalier a été détruit à l'abolition de la monarchie en 1919, mais auparavant, il permettait à l'impératrice Élisabeth de fuir directement par le rez-de-chaussée sans être vue, afin de rejoindre de mystérieuses destinations. Une impératrice décidément bien fugitive et insaisissable.
Ces voyages, Élisabeth les rassemble également sous la forme d'étonnants carnets de photographies. Le plus étrange de ces carnets est sans doute son carnet de beauté, dans lequel elle réunit les photographies des plus belles femmes du monde, actrices ou artistes.
Lorsqu'elle va demander aux ambassadeurs, son mari, de lui envoyer des photographies des femmes les plus belles des pays où ils sont accrédités, elle sera fascinée. Comme on lui dit toute la journée qu'elle est très belle, on le lui a même quelquefois reproché, elle veut voir ce qu'est la beauté ailleurs.
Elle organise des choses de plus en plus étonnantes et extravagantes apparemment. Par exemple, elle fait venir à Possenhofen la plus grosse femme du monde. Et elle est la femme la plus mince, la plus belle du monde. Mais au fond, on ne peut pas savoir. Pour un harem turc, c'est peut-être la plus grosse femme du monde qui est la plus belle.
Pour entretenir cette beauté, les soins les plus perfectionnés et extravagants sont requis.
Alors, les cheveux, pendant 2 heures, c'est toute une cérémonie. La coiffeuse, si jamais il y a un cheveu qui s'en va, on le cache, enfin, qui tombe. Ensuite, on la salue à genoux. C'est la cérémonie d'une déesse cheveux.
Sur ce célèbre portrait du peintre Winterhalter, Élisabeth est représentée avec les cheveux dénoués. Un portrait intime que seul l'empereur pouvait contempler et qui l'accompagnait durant les longues heures de travail à son bureau. Cette esthétique poussée à l'extrême, cette beauté sublimée, la rapproche de son cousin, le roi Louis II de Bavière, le double d'Élisabeth dans cette quête absolue de la perfection.
Élisabeth et Louis de Wittelsbach, le roi Louis II de Bavière, son cousin germain. Très vite, on peut dire que dans sa jeunesse, au bord du lac de Starnberg, lui aussi, le futur roi a été fasciné par cette cousine qui arrivait et qui représentait une sorte de vision quasi céleste. C'était un ange, ils ont passé des vacances ensemble. Et elle-même est amusée par ses bizarreries, son côté fantasque, peu protocolaire. Et je pense que c'est très très important de voir ces deux cousins qui bâtissent leur monde, leur rêve, qui est fait de montagnes, de lacs, de forêts. C'est la nature.
Étrange roi que Louis II de Bavière. Par rejet de la politique militaire de l'Allemagne prussienne de Bismarck, il se réfugie avec passion dans la construction de ses châteaux fous et démesurés. Il construit Neuschwanstein, la réplique crépusculaire d'un château médiéval. Herrenchiemsee, ou le faste d'un Versailles rêvé par le 19e siècle. Ou bien encore le très secret Lindenhof et ses folies wagnériennes.
Il y a un endroit merveilleux sur le lac de Starnberg qui s'appelle Roseninsel, l'île des roses. Et ils se retrouvent dans cette petite maison, ils s'écrivent des poèmes. L'aigle, la mouette, elle est fascinée par ce personnage étrange qui est très grand, mesure plus d'1,90 m, qui est déjà mythique.
Et Louis II de Bavière, voyant sa cousine bien-aimée, lui est devenu aussi progressivement fou, parce qu'il y a une grande part de folie dans ces deux êtres. Il voit un double en elle. Lui est dans l'homosexualité refusée et la beauté sublimée et la théâtralité de la mort. C'est très wagnérien. Ils sont dans le crépuscule des dieux, tous les deux.
Elle sera la seule personne à avoir le droit de visiter le chantier de ses travaux, notamment à Neuschwanstein, le premier château construit, et dans la galerie des glaces de Herrenchiemsee. Elle sera à la fois prise de panique et prise de fou rire devant cette imitation extraordinaire de Versailles. Mais je pense qu'elle a vraiment compris son cousin.
C'est au compositeur Richard Wagner et à ses opéras que vont tous les efforts financiers de Louis II et de la couronne de Bavière. Mais le roi, qui néglige les affaires du royaume pour se consacrer tout entier à l'art, est destitué en 1886 et assigné au château de Berg. Il disparaîtra dans des circonstances mystérieuses qui encore aujourd'hui demeurent inexpliquées.
Son médecin psychiatre lui a accordé une promenade au lac de Stenberg. On l'a retrouvé noyé, et le médecin étranglé et lui noyé. Mort tragique.
La disparition tragique de ce cousin bien-aimé
est un choc terrible pour Élisabeth, qui refuse d'admettre la folie présumée de son cousin et sa fin orchestrée par la volonté des hommes.
Élisabeth fait savoir qu'elle ne peut pas se rendre aux funérailles de son cousin, car cette cérémonie l'affecterait trop. Alors, elle fait envoyer des gerbes de jasmin, les fleurs préférées de Ludwig, auprès de sa dépouille. Elle demande également au peintre hongrois, Copé, de se rendre au chevet du défunt et d'y rester la nuit entière. C'est dans cette chapelle ardente de l'église de la cour de Munich que Copé va peindre la dépouille mortuaire de Ludwig et rapporter le tableau à l'impératrice. Elle entretient une étrange relation spirituelle avec Ludwig. Elle commence alors des séances de spiritisme pour tenter de rentrer en contact avec son esprit. Élisabeth est passionnée par le mystère de la mort, mais pas seulement la sienne, comme on peut le croire. Elle l'est également par celle des autres, surtout si celle-ci est liée à un secret.
C'est un nouveau deuil pour Sissi, qui revêt ses habits de noir. Elle ne les quittera plus jusqu'à la fin de ses jours. Elle sera pour toujours avec ses dames de compagnie, ces âmes noires qui cherchent le repos dans l'errance.
En les voyant arriver, les petits-enfants s'enfuyaient en criant « Les dames en noir, les dames en noir !» Parce que la rumeur a couru que lorsqu'on croisait ces femmes, eh bien, on mourait dans l'année.
C'est un portrait d'Élisabeth à l'âge de 50 ans. Elle était très mince et très belle. Mais il faut savoir que le peintre pouvait voir seulement le corps d'Élisabeth, mais pas le visage. Elle portait toujours des voiles et des éventails pour que personne ne puisse voir son visage et peut-être ses rides. Alors, c'était vraiment un grand problème pour la presse. Et la presse a commencé de produire des falsifications par la photomontage. Ici, par exemple, vous voyez la tête de l'impératrice, mais un autre corps. Et voilà une photo d'Élisabeth à l'âge de 30 ans. Et voilà Élisabeth à l'âge de 61 ans. Et vous voyez, il n'y a presque pas de différence. On a changé la couleur et la robe et c'est tout. Elle est belle pour toujours.
La presse produira beaucoup de falsifications de portraits officiels de l'impératrice, où elle apparaît toujours comme magnifique. Ses subterfuges sont loin d'être les seuls pour échapper au regard des hommes. Comme lorsqu'elle n'hésite pas à se faire remplacer par une dame de compagnie pour tromper ceux qui l'épient.
Sa coiffeuse peut lui servir de sosie quand elle veut échapper à la foule et qu'à ce moment-là, elle lui demande de paraître à sa place, de monter dans un train ou dans le yacht à sa place et elle-même, pendant ce temps-là, se dissimule dans les ruelles et monte par une petite entrée qui est prévue à cet effet. Le pauvre François-Joseph s'arrache les cheveux car il ne sait jamais vraiment où elle est.
Mais l'impératrice, sur son long chemin de croix, doit encore une fois subir le coup tragique du destin avec la disparition de son fils à Meyerling.
Il adore sa mère, qu'il voit passer comme un météore, parce qu'elle est devenue une sorte de fantôme errant traversant l'Europe. Et je pense qu'ils se ressemblent beaucoup.
Le jeune Rodolphe, troisième enfant de l'impératrice, grandit sous la pression de précepteurs peu scrupuleux, bien décidés à endurcir le caractère sensible de l'enfant.
Rodolphe, traité d'une manière épouvantable dès la petite enfance.
Il aura une succession de précepteurs assez bornés, assez stupides.
Un certain Gondrecourt qui est un fou furieux. C'est un enfant qu'il fait courir à 3 heures du matin dans la neige. Il tire à coups de revolver dans sa chambre pour le réveiller. Il l'a enfermé un jour dans le parc à Schönbrunn parmi les bêtes en disant qu'un sanglier allait foncer sur lui. Voilà l'enfance de Rodolphe.
Dans cet environnement souvent déstabilisant, le jeune Rodolphe évolue entre sagesse et passion. Et l'on annonce son mariage de convenance avec la princesse Stéphanie de Belgique.
Élisabeth, sa mère, a tout de suite pressenti un drame.
Rodolphe fait un mariage de convention parce que la famille royale de Belgique est très fortunée et que c'est vraiment un mariage entre guillemets d'intérêt, non pas pour Rodolphe qui en a éperdument rien à faire.
La pauvre princesse Stéphanie n'avait pas été accueillie d'une façon très aimable. On l'appelait la jument belge, l'arbre de Noël, c'était pas très aimable. elle n'a pas su peut-être faire le bonheur complet de Rodolphe, fait partie de ces couples qui n'arrivent pas à se trouver tout à fait.
Et Rodolphe devient très acariâtre, il peu à peu tombe dans une espèce de pessimisme total. Rodolphe se laisse aller à la drogue, à la boisson, à des maîtresses de toutes sortes.
Élisabeth a su que son fils avait des liaisons, d'ailleurs tout le monde le sait puisqu'il est suivi par la police. Son courrier, ses fréquentations sont surveillées, ce qui n'arrange pas ses relations avec son père. Alors pour la version officielle, il aurait rencontré, c'est vrai, il l'a rencontré, la jeune baronne Marie Vetsera au Prater, grâce aux relations plus que douteuses d'une cousine d'Élisabeth, de l'impératrice, Marie la Riche. Et cette jeune fille, un véritable petit pruneau d'Agen, serait tombée amoureuse du prince héritier qui était si malheureux en ménage. Entre le mois de novembre 88 et janvier 89, cette aventure n'est pas longue. Ça ne veut pas dire qu'elle ne soit pas intense, au moins du côté de la jeune fille.
Suicide, meurtre, là encore, le mystère qui entoure la disparition de Rodolphe est une énigme dans la malédiction qui frappe la dynastie des Habsbourg.
Lorsque, au matin du 30 janvier 1889, on vient informer l'impératrice Élisabeth, en premier, avant François-Joseph, de l'horrible tragédie, à savoir qu'on a trouvé le corps du prince héritier mort dans le pavillon de chasse de Meyerling, à une trentaine de kilomètres de Vienne, dans cette forêt viennoise enneigée. Élisabeth, à cette réflexion, elle dit « Quand il frappe, le Très-Haut est implacable. » Et après l'inhumation de Rodolphe dans la crypte des Capucins, ce haut lieu très impressionnant, fascinant, où depuis le XVIIe siècle, tous les empereurs, les impératrices, les archiducs, les archiduchesses sont inhumés, on verra Élisabeth, l'impératrice, la mère éplorée, descendre dans la crypte des Capucins en pleine nuit. Elle s'est enfuie par une petite porte de la Hofburg et appeler et hurler le nom Rodolphe, 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 au grand effroi des Capucins et du Père supérieur. Seul le silence des tombeaux va lui répondre, mais je pense qu'elle est quand même en communication avec son fils à ce moment-là.
Ce nouveau deuil terrible qui frappe Élisabeth l'enferme dans une dépression sans fin et un pessimisme total. Elle est plus que jamais cette impératrice errante qui fuit Vienne et ses malheurs et qui se fuit elle-même. Dans une ultime tentative pour retenir son épouse à Vienne, l'empereur décide de faire construire un palais qui lui ressemble. Ce sera la Villa Hermès.
La Hermès Villa est la résidence impériale la plus secrète du temps de Sissi, et même aujourd'hui encore, très peu de gens la connaissent. Nous sommes à côté de Schönbrunn, dans un parc. Il va choisir l'architecte de la cour, qui va construire un bâtiment énorme qui tient à la fois de la villa fin de siècle, du pavillon un peu chalet aussi, avec un centre équestre, puisqu'il y aura beaucoup de chevaux, et des promenades en laiton, un peu comme dans les villes d'eau, pour pouvoir marcher quand il pleut. Ce qui est frappant, c'est qu'on est dans le fond dans l'univers complet de cette femme, c'est-à-dire l'extérieur paraît conventionnel, sage, très sobre, comme cet escalier où nous sommes, pas gai du tout. Et puis, en montant dans les étages, on retrouve un petit peu la véritable Élisabeth, la véritable Sissi, fantasque, rêveuse, un univers qui se révèle extrêmement triste. La première pièce étrange de la villa est ce gymnase. On sait que l'impératrice voulait mettre à l'honneur les sports. Elle-même était très, très férue de gymnastique tous les matins dans les appartements de la Hofburg. Et ici, elle organise une pièce vraiment pompéienne pour la couleur, mais qui rend hommage aux luttes gréco-romaines, aux discoboles, enfin, toutes les disciplines qui étaient pratiquées dans l'Antiquité. Alors, je crois que c'est très révélateur de son univers. Nous sommes dans le premier rêve d'Élisabeth à la Hermès Villa. la seconde pièce bizarre, miroir du caractère d'Elisabeth, c'est sa chambre où nous nous trouvons. Il suffit de regarder le lit qui est un hommage à la monarchie assez délirant. Elle a voulu, dans ses chambres, faire un décor avec des trompe-l'œil, un hommage au plafond à une légende mythologique, le char tiré par deux tigres furieux. Il y a beaucoup de fantasmes de l'impératrice ici, en particulier son hommage, sa passion pour Shakespeare, avec cette illustration du songe d'une nuit d'été. Elle dira d'ailleurs, avez-vous remarqué que dans le théâtre de Shakespeare, seuls les fous sont des sages. Et quand on se rapproche du lit, on découvre peut-être la grande vérité de cette pièce, cette statue, la tête penchée, c'est la mélancolie.
Michaela Lindinger, conservatrice à la Villa Hermès, nous détaille l'histoire de cette étrange statue. Cette statue mortuaire, qui est appelée la mélancolie et qu'Elisabeth achète en Italie, n'est rien d'autre que la projection de l'image qu'elle a d'elle-même. Il faut imaginer qu'à l'époque, cette statue est électrifiée et éclairée de couleurs vertes, ce qui renforce l'atmosphère fantomatique. Cette idée lui vient des créations que son cousin Ludwig a fait installer au château de Neuschwanstein. Il est très très important pour Elisabeth d'aller et venir comme bon lui semble. Et c'est pourquoi dans chaque château ou maison dans laquelle elle a vécu, elle fait installer des portes ou des escaliers secrets. On en trouve bien entendu dans la Villa Hermès. Ces escaliers sont pour elle encore un moyen de s'évader.
Les drames de la vie d'Elisabeth, ce sont ces pertes qui l'ont accablée durant toute sa vie. De ses enfants dont on lui retire la garde, à ses proches qui disparaissent de manière plus tragique les uns que les autres. Si sa personnalité devient plus énigmatique, voire étrange, on ne peut que comprendre son besoin de s'échapper et de vivre selon ses aspirations profondes. Nous sommes fin août 1898. L'impératrice quitte la Kaiser Villa de Badischel où elle a passé l'été. Souvenez-vous, c'est là qu'elle avait rencontré l'empereur pour la première fois. C'est là aussi qu'elle le verra pour la dernière fois, car Sissi court au devant de son destin tragique. Nous la retrouvons quelques jours plus tard à Genève, au tout début du mois de septembre. La douceur des bords du lac Léman semble apaiser l'impératrice. Elle est venue y rendre visite à sa grande amie, la baronne de Rothschild, dont la famille gère une partie de sa fortune. En cette fin d'été, elle passe un séjour agréable à l'hôtel Beau Rivage et, pour une fois, semble vouloir se poser quelques instants. Mais en cette journée du 10 septembre 1898, elle doit quitter Genève et prendre le bateau à vapeur qui l'amènera de l'autre côté du lac Léman afin de rejoindre Vienne et retrouver l'empereur. Mais l'histoire s'écrit autrement pour Sissi. Est-ce la malédiction des Habsbourg? Le destin d'Elisabeth va croiser sur le quai de l'embarcadère celui d'un jeune anarchiste italien sorti de l'ombre, Luigi Lucchini.
Le 9 septembre 1898, l'impératrice est à Genève. Elle est descendue à l'hôtel Beau Rivage.
Qui est fréquenté par toute l'intelligentsia mondaine de l'époque. Entre autres, d'ailleurs, on retrouve le nom de Sarah Bernard dans le Livre d'or.
L'impératrice voyage toujours incognito. À Genève, elle se fait inscrire sous son pseudonyme habituel, Comtesse Hohenems. Malgré tout, le concierge du Beau Rivage, qui l'a reconnu, inscrit Elisabeth sur le registre.
Et en face, il y a la maison, la propriété des Rothschild, où Elisabeth, qui est beaucoup plus
beaucoup plus matoise qu'on imagine, voyait les Rothschild parce qu'elle avait acheté des actions dans les chemins de fer. Le bruit court que peut-être un anarchiste serait dans la ville, sait-on jamais, parce que le comte de Paris va venir ou est venu en voyage. Enfin, il conviendrait à toute maison royale d'être très, très prudent. Elle n'entend pas ces choses.
Bon, je vais m'habiller.
Elle a envie vraiment de faire une promenade comme une passante. Le grand bonheur d'une promenade, d'abord elle a envie d'acheter des rouleaux de musique. Elle le fait, elle entre très simplement chez un marchand de musique et il la reconnaît, le marchand, et très gentiment, elle signe ce qu'il veut, Elisabeth. Et dehors, elle veut manger une glace. Elle adore les glaces et il n'y a plus de régime tout d'un coup.
Elisabeth semble s'être posée à Genève, telle une mouette enfin apaisée de ses tourments. Même ses relations plutôt chaotiques avec l'empereur semblent enfin avoir trouvé une trêve. D'ailleurs, n'a-t-elle pas résolu ses devoirs d'épouse d'une manière pour le moins moderne à l'époque ?
Elle a offert à François-Joseph, pour se déculpabiliser et le laisser tranquille, et se laisser tranquille, elle lui a offert Catherine Schratt. Elle lui a offert une très belle femme en chair, une belle nymphe rose, charnue, bien faite.
C'est vrai qu'ils se verront beaucoup, qu'ils vont s'écrire. Mais il y a une chose qui est très drôle, c'est l'influence de l'une sur l'autre.
Elle devient amie de Catherine, elle déjeune, elle passe des après-midi avec François-Joseph, tous les trois ensemble.
Elisabeth va recommander à Madame Schratt, qui a des formes assez arrondies, de faire un régime. Et François-Joseph écrira une lettre assez drôle, mais un peu amère en même temps, à Sissi, sa femme, en lui disant « Écoute, tu exagères, tu as demandé à Katharina de faire un régime, elle aussi, alors toi, ça ne te suffit pas. »
Mais il aimera toujours d'un immense amour et jusqu'au bout, Elisabeth, à qui il envoie encore au dernier jour de sa vie, à elle, des lettres où il signe « Ton pauvre petit ».
Le matin du 10 septembre 1898, Elisabeth effectue encore quelques emplettes avant de rentrer à l'hôtel Beau Rivage, d'où elle doit repartir par le vapeur, qui doit la mener à Prégny, de l'autre côté du lac Léman.
La dame d'honneur est très inquiète. Il est 13h20, elles sont toutes seules. L'impératrice a chassé les policiers que le canton de Genève avait mis à sa disposition pour sa sécurité. Madame, nous ne pouvons pas manquer le bateau. Les deux femmes descendent, il y a tout le personnel de l'hôtel Beau Rivage, et ils voient partir les deux femmes alors que la cloche du bateau sonne pour la deuxième fois. Le bateau à aube de la Compagnie Générale de Navigation va partir. Elles avancent sur le quai du Mont Blanc.
Quand un jeune homme, un inconnu, blouse d'ouvrier, se précipite vers elles...
Et finalement, il bute dans l'impératrice, le bras levé.
Et il la poignarde d'un stylet très fin qui, en fait, pénètre jusqu'au fond de son cœur.
Elle tombe à la renverse et, en fait, elle se fait pas trop mal parce que la chevelure est quand même d'une telle épaisseur que, bon, le coup est amorti.
Elle est très pâle, sa dame d'honneur affolée. « Madame, votre majesté n'a rien. Non, que me voulait cet homme? Sans doute me voler ma montre. » Et des passants qui ont assisté à la scène crient « Au voleur, au voleur !»
L'impératrice fait encore quelques pas jusqu'au bateau, en prétendant qu'il ne lui est rien arrivé. Elle ne s'est pas rendue compte de la portée du geste de son agresseur.
Elle a beaucoup de mal à atteindre la coupée du bateau qui va partir. On l'installe et elle a un malaise. La dame d'honneur est absolument affolée. Elle dégrafe le corsage de l'impératrice et voit une goutte de sang sous le sein gauche.
Et on se rend compte qu'il y a 3 points de sang, juste, et là, ce n'est qu'un cri, l'impératrice d'Autriche a été assassinée, on comprend.
Le bateau est déjà en train de faire sa manœuvre, on prévient le capitaine, le commandant Roux, on lui révèle l'identité de la passagère qui s'est trouvée mal, c'est Sa Majesté impériale et royale, il faut absolument revenir au bord, le plus vite possible. Le bateau fait une manœuvre.
Elisabeth est rapportée au moyen d'un brancard de fortune jusqu'à sa chambre de l'hôtel Beau Rivage.
Elle a perdu connaissance. Une heure plus tard, elle s'éteint dans sa chambre de l'hôtel Beau Rivage.
C'est ici qu'a été amenée l'impératrice en présence de sa dame de compagnie. C'est ici que le médecin, que le prêtre sont venus et que ma grand-mère a accompagné l'impératrice dans ses derniers moments.
L'assassin Luigi Lucchini, anarchiste italien, est arrêté dans la foulée. L'homme égaré a agi de manière isolée, dans le but de mettre un terme à la vie d'une tête couronnée. C'est le duc d'Orléans qu'il voulait assassiner à Genève, mais le drame s'est abattu par un coup du sort sur Sissi.
Et Irma Staret devra ensuite assumer le rôle affreux de faire savoir à François-Joseph que Élisabeth a été assassinée.
C'est vers 16h de l'après-midi, à son bureau à Schönbrunn, que l'empereur voit arriver son premier aide de camp de service, le comte Paar, qui est très très pâle. Eh bien, mon cher Paar, que vous arrive-t-il? Une mauvaise nouvelle? Oui, sire, une mauvaise nouvelle de Sa Majesté. Il se lève, le pauvre François-Joseph. Elle a été blessée grièvement dans un attentat. Il avait eu peur qu'elle ne se soit suicidée. Et puis un deuxième aide de camp arrive. Sa Majesté est décédée.
Et là, pour la première fois, il a éclaté en larmes. Il a dit, mais cette pauvre femme qui n'a jamais fait de mal à personne.
Et on voit un grand cortège de deuil qui se rend de l'hôtel Bourrivage avec le cercueil de l'impératrice et qui se rend jusqu'à la gare de Genève-Cornavin, où un train spécial, un train funèbre, rideau baissé, va ramener pour son dernier voyage Élisabeth à Vienne.
Le dernier voyage d'Élisabeth l'a conduit de Genève à Vienne. Et de Vienne à Budapest, sa chère Hongrie, tous les portraits de l'impératrice et reine sont recouverts de crêpes noires. Le cercueil de la défunte est exposé pendant 2 jours à la Hofburg. Tout Vienne se recueille. Et le 16 septembre, les Viennois descendent dans la rue pour rendre un dernier hommage à celle qu'ils n'ont jamais vraiment comprise. Le vieil empereur François-Joseph, accablé par le chagrin et accompagné de ses filles, suit péniblement le cortège. Et avec lui, de nombreuses délégations étrangères. Et la dépouille de Sissi est inhumée dans la crypte des Capucins, dans le grand protocole impérial, où elle rejoint pour l'éternité la dynastie des Habsbourg.
Et on arrive devant la crypte des Capucins. Et la tradition, moi, je la trouve belle. Alors, on frappe à la grille. Et les frères Capucins disent, l'un d'eux dit, « Qui es-tu ?»« Je suis l'impératrice d'Autriche, Élisabeth, impératrice d'Autriche, reine de Hongrie. Je ne te connais pas, dit le frère Capucin. Le maître de cérémonie frappe une deuxième fois. « Qui es-tu ?» Je suis Élisabeth, impératrice d'Autriche. Je ne te connais pas. On frappe une troisième fois. Qui es-tu ? Je suis Élisabeth, pauvre pécheresse. Tu peux entrer. Et là, pour la deuxième fois, tout Vienne a vu l'empereur fondre en larmes, sangloter comme un enfant. Et donc, on l'a descendu dans la crypte des Capucins, où lui, en 1916 seulement, il la rejoindra. Alors, elle est là au milieu, entre Rodolphe et le fiancé d'Ischol, qui toute sa vie avait aimé cette petite fille qui riait et qui disait « Comment ne peut-on ne pas l'aimer ?»
C'est pourtant, comble du paradoxe, la mort tragique d'Élisabeth, impératrice d'Autriche et reine de Hongrie, qui va marquer son destin dans l'idéal collectif. Et c'est au dernier épisode de sa vie de femme que va naître le mythe de Sissi. Jeune fille idéale, reine malheureuse, impératrice incomprise, souveraine un peu folle. Le cinéma très vite va s'emparer de la figure légendaire d'Élisabeth d'Autriche et rendre enfin populaire celle que ses contemporains n'ont jamais voulu comprendre.
J'espère vous avoir fait découvrir une autre Sissi, bien différente des clichés du cinéma. Une femme moderne, éprise de liberté et en avance sur son temps. Pourtant, Le mythe de Sissi, la magnifique rose de Bavière dont s'éprend l'empereur à Badichel, est toujours vivant, comme en témoignent les millions de touristes qui le retrouvent chaque année dans les nombreux lieux qu'elle a occupés au long de sa vie extraordinaire. Bonne fin de soirée et à bientôt pour un nouveau numéro de Secrets d'Histoire.